RCF Nièvre, l'invité de la rédaction locale.
Daniel Boone, bonjour.
Bonjour Olivier.
Vous êtes écrivaine et journaliste spécialiste de la nature et des questions environnementales. Vous êtes également photographe et animatrice radio, notamment chez nous sur RCF Nièvre. La chronique bimensuelle Nature Nièvre nous est proposée le vendredi dans nos cases locales. Et vous êtes présente aujourd'hui devant le micro d'RCF pour nous parler de votre dernière publication qui a été coécrite avec Marc Giraud, chroniqueur radio et aussi télé, par ailleurs porte-parole d'une association pour la protection des animaux sauvages. Alors d'emblée dans cet ouvrage, vous commencez par un appel à résister. C'est l'intention première qui a provoqué ce livre ?
Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de prendre la parole à partir du moment où on s'oppose à la majorité bien pensante. Effectivement, il faut résister à cet état de fait, parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour nous couper la parole. Parce que dès qu'on émet une opinion qui est contraire aux intérêts des grandes entreprises et politiques, qui sont complètement liées, immédiatement, on a une censure. On a peur parce que on peut se faire tabasser, parce qu'on peut se retrouver en garde à vue. Et il faut absolument résister à cette peur pour continuer à parler, parce qu'il ne faut pas accepter du silence qu'on nous impose.
En quelques années seulement, dans le débat public en France, mais ailleurs également, on est passé de l'indifférence à l'écolo-bashing que l'on connaît aujourd'hui, qui parfois va jusqu'à tuer militants et lanceurs d'alerte. Comment on en est arrivé là ?
Alors, il y a deux choses. Alors, d'un côté, il y a le monde de la finance qui s'est mis en place, qui est un monde impitoyable. Et autrefois, même dans une économie libérale, on avait quand même certaines règles. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Aujourd'hui, on peut spéculer sur les aliments de base, sur le blé, sur le riz, etc. Et puis, d'un autre côté, il y a une prise de conscience qui s'est excessivement développée, notamment chez les jeunes, parce que aujourd'hui, avec le changement climatique, avec tous les problèmes sociaux qui existent dans le monde, on le voit bien avec les réfugiés, parce que les réfugiés, s'ils viennent vers chez nous, c'est parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux. Et il faut savoir qu'en général, ce sont dans les familles, quand il y a des gens qui partent, ce sont les gens qui sont les plus cultivés, les plus prometteurs, parce qu'on espère que comme ça, ils vont s'en sortir et qu'ils vont ramener de l'espoir chez eux. Bon, on connaît le parcours de ces réfugiés, c'est pas si simple. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de tout ça. Et donc, quand il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer ces pratiques...
Elles sont menacées.
Elles sont menacées. Et de plus en plus.
À travers le monde, on intimide, on violente, on tue, hein, on va parfois jusqu'à tuer, en toute impunité aussi. Hein, vous exposez dans votre livre des faits objectifs, vérifiés, des faits concrets. On se rend compte qu'une démocratie comme la nôtre, ici en France, on n'est pas à l'abri du sujet. Ça semble pouvoir se nicher un peu partout, dans toutes les sphères, dans tous les systèmes. L'écolo-bashing, c'est pas une fable.
Non, c'est pas du tout une fable, c'est même très très grave. Parce que aujourd'hui, peut-être que les auditeurs ont entendu parler de Morgane Large, par exemple, qui a été menacée parce qu'elle enquête sur l'agroalimentaire en Bretagne. Et on a été jusqu'à déboulonner les roues de sa voiture. C'est-à-dire, c'est une tentative de meurtre, quoi qu'on dise. Et d'autres journalistes, qui sont des journalistes courageux, sont sans cesse menacés sur le terrain, mais aussi par la loi. Parce que, par exemple, lors de manifestations, des journalistes font leur travail et ça n'empêche qu'ils sont arrêtés, mis en garde à vue. Bon, on raconte, il y a des témoignages qui disent que un journaliste, par exemple, a été arrêté, il a présenté sa carte de presse, on lui a déchiré sa carte de presse en lui disant qu'on n'en avait rien à foutre de la part d'un policier. C'est quand même grave. C'est qu'on est dans une société complètement aberrante.
Violente. Vous clôturez l'ouvrage par un chapitre consacré au combat de l'avenir. Est-ce qu'on peut s'autoriser, dans pareilles circonstances, à espérer, malgré le contexte mondial, très tendu, extrêmement tendu, violent ?
Alors moi, je suis excessivement positive quand je vois la façon dont les jeunes se sont emparés de leur avenir, parce qu'il s'agit bien de leur avenir, et ils ont choisi d'avancer dans la non-violence, par exemple, mais en étant excessivement imaginatif. Parce que, par exemple, quand on va voler les chaises de la BNP pour dénoncer l'exode des capitaux, bon, bah, c'est une action.
Inspirée par Gandhi, hein. On n'est pas dans la violence.
Absolument.
C'est une action. On est dans l'intelligence de l'action.
On est dans l'intelligence de l'action et quand on refuse, enfin, quand on désobéit, parce que c'est la désobéissance civile aussi, c'est pas pour ne pas respecter la loi, mais c'est pour faire en sorte que la loi soit plus juste. Et ça, c'est très, très important. Et donc, tous ces jeunes qui se battent, c'est ça leur... Et moi, je trouve que c'est merveilleux parce que, par exemple, quelqu'un comme Marie Toussaint, qui était activiste, qui est une des fondatrices de Notre Affaire à tous, qui a donc initié ce recours en justice pour attaquer l'État français contre l'inaction climatique et qui a gagné, et qui est maintenant députée européenne. Je trouve que c'est absolument extraordinaire qu'elle soit arrivée à être députée, parce qu'aujourd'hui, au Parlement, il y a une dizaine d'activistes qui sont députés, c'est-à-dire que ils luttent dans tous les tribunes où ils peuvent s'exprimer. Et puis, bon, espérons que ça va devenir autre chose. Et il y a par exemple les zadistes qui expérimentent des nouvelles façons de vivre, des nouvelles économies, et on voit que ça marche. C'est aussi pour ça que je pense qu'il y a une répression, parce que on voit que ça marche, on voit qu'il y a vraiment une énergie, on voit qu'il y a une volonté, et ça met en péril notre façon de vivre, le consumérisme, etc. Et donc forcément tous les intérêts capitalistes.
Qui veut la peau des écolos? Enquête sur les dessous de l'écolo-bashing par vous-même, Daniel Bonne, et Marc Giraud aux éditions Double Ponctuation. Merci beaucoup, Daniel.
Merci, Olivier.